Donc je remercie Monsieur le professeur Michel Zinc de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui dans le cadre du séminaire sur l'humiliation. J'aurais pu vous parler de l'humiliation du fol dans les récits français du Moyen-Âge, mais la question a déjà été exhaustivement traitée dans le cadre du cours. De plus, depuis quelques années, j'ai un peu laissé de côté mes fous et j'ai donc préféré aborder la question sur nouveaux frais à partir d'une figure biblique très connue, mais me semble-t-il assez peu étudiée dans le domaine de la littérature médiévale. Je veux parler de la figure de Samson. En dehors d'une très belle analyse du poème d'Abélard, analyse due à Peter Drucker, l'Hercule biblique, comme on le surnomme souvent, a suscité pour le Moyen-Âge essentiellement des analyses d'ordre exégétique en tant que figura Christi. Figura problématique, nous y reviendrons, ou alors la figure a suscité des travaux de modernistes, notamment sur la fortune iconographique du thème de Samson et Dalila dans la peinture classique, avant qu'il ne séduise les compositeurs d'opéra. On pense évidemment à Saint-Saëns ou les cinéastes. On pense à Samson et Dalila de Cécil B. 2000. Le côté hollywoodien du personnage est plutôt étranger au Moyen-Âge latin et Samson n'a guère intéressé les trouvères du Moyen-Âge. Le couple de Samson et Dalila se réduit le plus souvent à un exemple parmi d'autres de trahison amoureuse, du roman de la rose de Jean de Main, au Triumphi de Pétrarque, au miroir de mariage d'Eustache Deschamps. Il est souvent cité, mais n'a pas suscité l'imagination des médiévaux, à la différence d'Adam et Ève, de Salomon, de Virgile, d'Alexandre ou même d'Aristote. Il n'est pas encore entouré, il ne s'est pas entouré comme ces derniers d'une légende, peut-être parce que le texte biblique, celui du livre des Juges, est déjà saturé de traits légendaires, voire mythiques. J'ai cependant persisté dans mon choix et décidé de vous parler de Samson pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'humiliation prend chez ce personnage des formes radicales. Cet Hercule est tondu, aveuglé, emprisonné, condamné à tourner une meule et moqué. Il est à la fois un Tristan ou un Lancelot par sa tonsure, un Édipe ou un Cyclope par son aveuglement, un Ixion par la meule qu'il doit tourner, un Christ de la Passion par les avanies que lui font subir les Philistins dans le temple de Gaza. L'humiliation prend ici des formes hyperboliques, outrancières, à la mesure de sa force et de son orgueil. Je parle d'orgueil car Samson, on l'a souvent dit, n'agit guère pour le peuple hébreu. Il agit pour lui-même, pour se venger des torts qu'il a subis de la part des Philistins, et c'est une lecture moderne, celle du Samson et Dalila de Saint-Saëns et de son librettiste Ferdinand Lemaire, par exemple, qui met en scène le cœur des Hébreux et voit dans le héros une sorte de figure nationale de nouveau Moïse. Et Saint-Saëns pense aussi, lorsqu'il compose Samson et Dalila, à la défaite de 1870. On pourra donc se demander comment les clercs du Moyen-Âge vont analyser et interpréter cette pléthore d'humiliations. La seconde raison de ce choix est qu'en Samson se conjugue l'humiliation christique. La fin du chapitre 16 des Juges met en scène une sorte de chemin de croix et l'humiliation amoureuse. Samson peut donc, de manière assez surprenante, à la fois être comparé au Christ et à Yvain ou Lancelot. La troisième raison tient à la figure d'Abélard, qui ne se contente pas à propos de Samson d'une simple mention, mais qui lui a consacré un de ses plaintus. On pourrait se demander quel lien ce plaintus entretient à la fois avec la tradition médiévale du juge Hercule et avec le dossier Abélard et Héloïse, et en particulier avec l'Historia Calamitatum, qui est entre autres un récit d'humiliation à la première personne. Mon exposé procédera de la manière suivante. J'envisagerai d'abord rapidement le texte biblique, puis les exégèses médiévales de l'humiliation de Samson. Je me demanderai ensuite quelles inflexions ont été apportées par les médiévaux aux matériaux de l'Ancien Testament et comment il devient matière à exemplum. Puis j'envisagerai plus en détail les quelques textes qui, par leur ampleur, dépassent ce stade de l'exemplum. D'abord, la réécriture vernaculaire, à ma connaissance, la plus développée, celle du Renard le Contrefait, une somme du début du XIVe siècle. Ensuite, De Planctus latin, qui ne sont pas à proprement parler narratifs, mais nous donnent un éclairage intéressant sur la question de l'humiliation. Je pense au célèbre Planctus d'Abélard que je viens d'évoquer, et un Planctus anonyme, plus tardif, deux textes facilement accessibles, puisqu'ils figurent à la suite l'un de l'autre dans l'excellente anthologie de la lyrique latine du Moyen-Âge, éditée par Pascal Bourguin et publiée dans la collection Lettres gothiques. Je ferai aussi appel de manière sporadique à l'iconographie de Samson dans les manuscrits du Moyen-Âge comme appui des textes. Je commence donc par le texte biblique, et je m'appuierai, et c'est le texte qui est affiché sous vos yeux, par le texte évidemment de la Vulgate. Je ne reviens pas sur l'intégralité de l'histoire de Samson, qui est greffée, on le sait, de manière assez artificielle dans le livre des Juges, sa naissance, son mariage, son combat à main nue avec le lion, la scène sans doute la plus représentée dans l'art médiéval, le massacre des Philistins avec la mâchoire d'âne, l'incendie des moissons par les renards. J'aborderai simplement ici la dernière étape de l'itinéraire du héros, couvre sa rencontre avec Dalila. Les Philistins, je rappelle le texte, soudoient Dalila pour qu'elle extorque à son amant le secret de sa force. Ce qui me semble important, c'est que le but des Philistins n'est pas de tuer Samson, mais de neutraliser sa force et de le faire souffrir, une fois pris. Je cite le texte de la Vulgate que vous avez devant vous, enfin je cite la traduction, « Séduis-le et cherche à apprendre d'où lui vient une telle force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui et, une fois enchaîné, le mettre à terre. » Le désir des Philistins est donc bien un désir d'humiliation plus qu'une volonté de mise à mort. On peut noter que le terme de la Vulgate, « affligere », soit « faire souffrir »,« jeter à terre »,« humilier », gauchit le texte hébraïque qui parle simplement de « maîtriser », « dominer ». On connaît la suite, Dalila lui arrache le mystère de la force, de sa force, elle est située dans les cheveux, Samson est un héros solaire, son nom hébreu Shemesh renvoie au soleil, rapprochement que connaissent bien les clercs du Moyen-Âge, la suite entre autres d'Isidore de Séville, les cheveux comme les rayons du soleil ou la crinière du lion sont le siège de sa puissance. Dalila profite alors de son sommeil, lorsqu'il a la tête dans son giron, in sinu suo dans le texte de la Vulgate, pour appeler un tonsor, un barbier, qui lui rase sa chevelure. Sa force disparaît aussitôt, mais également l'esprit de Dieu qui l'habitait. Les Philistins s'emparent alors de lui, l'aveuglent et l'emprisonnent en le condamnant aux travaux forcés de la meule. Je cite le texte. Dès que les Philistins eurent mis la main sur lui, ils lui arrachèrent les yeux, le conduisirent enchaîné à Gaza, et après l'avoir enfermé dans un cachot, lui firent tourner la meule. La fin est bien connue, lors d'une grande fête en l'honneur de leur dieu, Dagon, les Philistins exhibent Samson pour se moquer de lui et le faire jouer, et en même temps se jouer de lui. Le terme latin est précisément celui de ludere. Cite le texte, ils donnèrent l'ordre d'appeler Samson et de le faire jouer devant eux. Tiré de son cachot, il jouait devant eux et ils le placèrent debout entre deux colonnes. Samson, qui a retrouvé ses cheveux et sa force, invoque Dieu et brise les colonnes. Le temple s'écroule sur des milliers de Philistins et sur Samson lui-même. Son dernier exploit entraîne aussi sa mort, ce qui n'a pas manqué de susciter des interrogations chez les exégètes chrétiens. S'agit-il, oui ou non, d'un suicide ? J'y reviendrai rapidement, puisque ce n'est pas l'objet, évidemment, de mon propos, mais j'y reviendrai au sujet et à partir du texte d'Abélard. Le texte biblique multiplie donc, sans pour autant les développer, les humiliations que subit Samson de la part de Dalila, puis des Philistins. On peut en distinguer six, vous les avez sous vos yeux. La tonsure, première humiliation. La deuxième, l'aveuglement, la perte de la vue. Troisième élément, l'enchaînement. Quatrième point, l'emprisonnement. Ensuite, les travaux forcés de la meule. Et puis, dernière humiliation, la dérision et les moqueries des Philistins lors de la fête en l'honneur de Dagon. On parcourt ainsi une large gamme d'humiliations. Le premier type d'humiliation touche au corps avec la mutilation qui prive le personnage de son intégrité physique. L'une réversible, la tonsure, l'autre irréversible, l'aveuglement. La réversibilité de la première, la tonsure, va permettre précisément dans le texte biblique le salut et le sacrifice en même temps du héros qui retrouve sa force pour provoquer une sorte d'attentat suicide au terme de son, du livre des juges. La seconde humiliation touche au lien social et prend la forme de la déchéance sociale, de la privation de liberté, et cela en trois étapes, l'enchaînement, l'emprisonnement et enfin les travaux de la meule. Donc un homme libre, qui plus est un nazir, un homme consacré à Dieu, devient un prisonnier condamné à des travaux serviles, voire réservés aux animaux domestiques, ceux de la meule. Enfin, l'humiliation est envisagée dans sa dimension spectaculaire, l'humiliation de l'exhibition. L'humiliation suppose toujours, peu ou prou, une dimension théâtrale, le regard de l'autre. On est toujours humilié aux yeux d'autrui. On se rappelle les scènes de folie dans les romans du Moyen-Âge, où le fol, comme Tristan ou les fous de Dieu, est exposé aux avanies et aux quolibets de la foule. On peut aussi penser à l'humiliation que subit Aristote dans le lait d'Aristote, sous les yeux d'Alexandre, ou mieux encore, à Virgile. Hein, Virgile, selon une légende médiévale, souvent mise en rapport avec celle de Samson, tombe amoureux de Phébie, une courtisane romaine, qu'il expose dans une corbeille suspendue à une tour à la vue de tous les Romains. On connaît la terrible vengeance de Virgile, qui, grâce à ses pouvoirs magiques, prive les Romains de feu et les contraint à aller s'approvisionner en feu entre les jambes de la courtisane. L'exemplum se construit ici sur un jeu d'humiliation et de contre-humiliation et sur un jeu de surenchère. Vous avez devant vous une enluminure d'un manuscrit de Guillaume de Machaut, de La Fontaine amoureuse, où vous voyez donc sur votre gauche Virgile suspendu à la tour et donc placé dans une corbeille et donc qui est exhibé devant la foule des Romains. Et sur votre droite, cette scène évidemment très humiliante où les Romains s'approvisionnent en feu en soulevant le vêtement de la courtisane. Alors plusieurs faits sont à noter dans le texte biblique. D'abord, dans ce réseau d'humiliation qui entoure Samson, l'aveuglement me semble occuper une place centrale et assurer la cohérence de l'ensemble. Il redouble d'une certaine manière la tonsure. La tonsure le prive de sa force physique, l'aveuglement le prive de sa force intérieure, de sa clairvoyance, lui, précisément, juge d'Israël. Mais l'aveuglement prépare aussi ce qui suit, l'emprisonnement et le cachot. Aux ténèbres de la cécité vient s'ajouter la nuit de la prison. La série des humiliations joue en définitive sur le contraste entre la lumière et les ténèbres. À la nuit de la cécité et du cachot s'opposent les lumières de la fête finale en l'honneur de Dagon. Samson est tantôt caché, tantôt exhibé, mais le trait commun est bien celui de l'humiliation. Humiliation d'un héros adulé que l'on soustrait au monde pour le condamner à tourner une meule, humiliation de son ostentation grotesque à la foule des Philistins. Deuxième point qui me semble important dans le texte biblique, c'est la place discrète de Dalila. Elle n'est qu'un instrument entre les mains des Philistins pour arracher le secret de la force de Samson. Elle s'efface complètement de la scène du récit une fois le secret révélé. Le conflit ne met pas aux prises Samson et Dalila, mais Samson et les Philistins, c'est la différence avec l'histoire de Virgile. Samson se venge moins de Dalila que des Philistins. Le troisième et dernier point, c'est la violence de l'humiliation, l'outrance qui est à la mesure de la violence et de la puissance de Samson. Héros meurtrier qui, avec la facilité d'un personnage de cartoon américain, tue à main nue un lion, puis met à mort sans broncher des centaines, puis des milliers de Philistins sans avoir recours à des armes nobles, comme la mâchoire d'âne, un héros qui n'est pas sans orgueil. Si le texte biblique reste dans l'implicite, Flavius Joseph l'affirme sans ambages dans ses antiquités judaïques à propos du carnage avec la mâchoire d'âne. Je cite ici le texte des antiquités judaïques, texte évidemment grec, mais qui a été très tôt traduit en latin et qui sera très largement diffusé dans les écoles et les universités ensuite du Moyen-Âge. Je cite le texte. « Samson nourrissait plus d'orgueil qu'il ne convenait de son exploit, déclara que ce n'était pas arrivé avec l'aide de Dieu et utilisa cet événement pour glorifier sa propre valeur. On peut donc parler d'une sorte d'équilibre dans l'outrance. Ce héros à l'orgueil outrageant est puni par une série d'humiliations très fortes. Et surtout, le seul terme qu'il puisse y mettre à ces humiliations est le choix de la mort. Aucun retournement ne semble possible. La vengeance, si vengeance il y a, coïncide avec son propre anéantissement. » Alors que devient ce personnage ensuite dans les exégèses médiévales? Cette ambiguïté du personnage, à la fois victime et coupable, se retrouve dans la tradition exégétique qui a fait l'objet d'un article de Gilbert Dahan, paru en 2004 dans la revue Graphet. Je privilégierai évidemment ici la seule question de l'humiliation. D'un côté, Samson est une figura Christi ou tupus Christi. De nombreux traits de son itinéraire ont pu être rapprochés sans difficulté de la vie du Christ. Sa naissance, d'abord annoncée par un ange, son statut ensuite de Nazir, personnage aux cheveux consacrés, et donc il est déjà un Nazaréen, et surtout la fin de sa vie est une manière de passion. Il est humilié par les Philistins comme le Christ le sera par les Juifs, et sans surprise, Dalila devient, chez les exégètes du Moyen-Âge, une figure de la synagogue. Et le barbier qui le tond sur les ordres de Dalila est, pour le théologien du XIIe siècle, Rupert de Deutz, une préfigure de Pilate. Le Speculum Humanae Salvationis, une grande somme typologique élaborée dans les milieux dominicains de la vallée du Rhin, peut-être à Strasbourg, autour de 1320, met en parallèle l'aveuglement de Samson avec l'ivresse de Noé, la mort dure sous le crachat des adorateurs du veau d'or et le Christ aux yeux bandés et conspués du Vendredi Saint. Vous avez sous les yeux une enluminure d'un des manuscrits du Speculum Humanae Salvationis, un manuscrit de la Bibliothèque nationale, où vous avez donc les quatre scènes qui sont représentées au même niveau, au sommet de la double page. Vous avez ici, donc à votre gauche, l'ivresse de Noé, à côté, la scène de l'aveuglement de Samson par les Philistins, et puis la page en face, vous avez donc le Christ aux yeux bandés et insulté par les Juifs. Et puis tout à droite, une scène qui n'apparaît pas, qui est apocryphe, qui apparaît dans l'Historia Scholastica de Pierre Comestor, la scène dure qui meurt sous le crachat des adorateurs du veau d'or. Dans un autre texte, presque contemporain du Speculum Humanae, le Sinoudi, qui est un recueil d'exemplats français du début du XIVe siècle, donc, on voit mis en parallèle le Christ crucifié et puis le Samson qui est enserré dans les liens par Dalila. Mais cette identification du Christ, de Samson au Christ, a ses limites. Samson est aussi un séducteur, un homme à l'appétit sexuel débridé, et on est loin ici d'une figure christique. Dans la Bible, il croise successivement trois figures féminines, l'épouse, la prostituée de Gaza, la fameuse méritrix du chapitre 16, et puis la maîtresse avec Dalila. Elles ont en commun d'être des étrangères, des philistines, même si pour Dalila, rien n'est explicite. Et le livre des juges, comme plus tard Flavius Joseph, n'hésite pas à condamner ce choix. Samson commet non seulement la faute de fréquenter des prostituées, et Dalila est souvent qualifiée de méritrix par les clercs du Moyen-Âge, mais il commet aussi la faute de fréquenter des étrangères. Certains commentateurs médiévaux, sans revenir nécessairement sur la question ethnique, sont sans nuance lorsqu'ils évoquent ce versant de la personnalité de l'Hercule biblique. Le franciscain Pierre-Jean Olieu, à la fin du XIIIe siècle, le qualifie de publicus fornicator. Et Pierre Comestor n'hésite pas à en rajouter par rapport au matériau biblique, un peu comme un journaliste de tabloïd, au dire des Hébreux, soit des rabbins, en latin c'est hébraï tradunt quod, on aurait forcé Samson à coucher en prison avec des femmes fortes, mulieribus robustis, pour qu'elles conçoivent une lignée puissante, sobolem robustam. Rupert de Deutz s'insurgera contre cette nouvelle image d'un Samson inséminateur, quoique prisonnier, et la juge honteuse et ridicule. En tout cas, même aveugle, même mutilé, Samson aurait, selon Comestor, continué à exercer sa puissance sexuelle, beau démenti au lieu commun psychanalytique de la tonsure comme castration. Samson fornicateur d'un côté, Samson christique de l'autre, les exégètes, on le voit, sont amenés à concilier l'inconciliable, à procéder à un grand écart. Et l'humiliation n'échappe pas à cette tension où l'humiliation est une image du Christ de la Passion, Samson l'innocent, le nazir, le pur, subit les sévices et les moqueries que lui infligent les Philistins, ce peuple idolâtre, et la meule peut donc être considérée comme l'instrument de son martyr, ce qui est le cas dans la Bible française de Massé de la Charité, où l'humiliation est une image de l'aveuglement d'un personnage prisonnier de la chair et de la passion amoureuse. Ainsi, la même meule que tourne Samson figure l'homme aveugle aux choses de l'esprit selon Hugues de Saint-Cher. Elle peut également, dans l'iconographie, être rapprochée de la roue de fortune, comme dans la célèbre Bible moralisée du manuscrit de Vienne, du milieu du XIIIe siècle, où on voit d'un côté Samson tourner une roue verticale et de l'autre figurer sur une roue de fortune. J'ajouterais que le sommeil de Samson dans le Giron de Dalila est comparé au séjour de Jonas dans la baleine chez le prédicateur Ranulf de la Houblonnière et signifie donc un oubli de Dieu. Alors, au-delà de cette double lecture possible de la geste de Samson dans le cadre de l'exégèse, la figure de Dalila va permettre une troisième interprétation du personnage, interprétation que l'on retrouvera dans la littérature vernaculaire et plus précisément dans le cadre de la tradition courtoise et qui fait de Samson une figure exemplaire de l'homme trahi par la femme. Samson n'est ni innocent, ni coupable, mais il est d'abord victime de la trahison féminine. On peut noter que le principal déplacement opéré par les médiévaux sur le texte biblique est l'accent porté sur la figure de Dalila. Dans le texte des juges, je l'ai dit, elle n'était qu'un instrument au service des Philistins pour dominer et écraser l'Hercule juif. Le Moyen-Âge va substituer au couple Samson-Philistin le couple Samson-Dalila. Dans les exégèses, on procédera à un partage sans nuance. Samson représente l'esprit, Dalila la chair. Dalila incarne la trahison, elle est un Judas au féminin. Partage qui traverse les siècles, on se rappelle Vigny, qui, dans la colère de Samson, oppose la bonté d'homme et la ruse de femme. Je cite quelques vers de ce poème célèbre. « Une lutte éternelle en tout temps, en tout lieu, se livre sur la terre, en présence de Dieu, entre la bonté d'homme et la ruse de femme, car la femme est un être impur de corps et d'âme. » Et un peu plus loin, Vigny présente Dalila comme un éternel féminin, c'est un vers très célèbre, et plus ou moins, la femme est toujours Dalila. Dans les textes et les images du Moyen-Âge, le premier signe de cette promotion de Dalila est son rôle actif dans la tonsure du héros. La Bible hébraïque parle simplement d'un homme que convoque Dalila avant de procéder sans doute elle-même à la tonsure. La Septante et la Vulgate précisent et parlent d'un barbier. La Vulgate parle de tonsor, et c'est alors lui qui rase Samson. On le retrouve encore, ce barbier, dans la scène cocasse et bien prosaïque du mystère du Vieux Testament, texte de l'extrême fin du Moyen-Âge. Les mystères, on le sait, se plaisent à mettre en scène les corps de métier de la ville, les drapiers autour de la Véronique, les forgerons qui fabriquent les clous de la crucifixion. Et on ne sera pas étonné de retrouver un vrai barbier autour de Dalila, Vous avez le texte, l'extrait devant vous, Dalila qui s'adresse à Samson, qui l'invite à s'endormir, « Reposez-vous sur mon giron, mon ami doux. » Et Samson qui répond, « Fais tout ainsi que tu l'entends, car de sommeil suis abattu. » Donc Samson s'endort et Dalila s'adresse ensuite à son barbier qui arrive, « Tantôt verront votre vertu, et s'il m'avait menti ou non, approchez-vous près, mon mignon, c'est ici au barbier qu'elle s'adresse, en ceci n'aurez intérêt, vous n'aurez pas de dommage. » Et le barbier répond, « Voici mon rasouir qui est prêt pour bientôt faire son chef-d'œuvre. Or, regardez comme je y œuvre, ai-je pas de l'entendement ?» Et Dalila répond, « Besogniez-y tout doucement, car j'ai peur qu'il ne se réveille. » Le barbier, « Jamais ne vit perruque telle, qui ait eu cette si dure racine. » Et Dalila, « Sa force y est, je l'imagine, à ce coup ne m'a point menti. » L'auteur du mystère de Samson ne peut s'empêcher d'ajouter ce détail réaliste du barbier sur l'implantation des cheveux de Samson qui prouve que Samson n'a pas menti. Mais la plupart des textes du Moyen-Âge suppriment cet intermédiaire et font directement agir Dalila et reviennent, de ce point de vue-là, peut-être au texte hébraïque, sans le savoir, au texte hébraïque originel. Les images en témoignent qui associent souvent la scène de la tonsure et celle de l'aveuglement, la perte de la force et celle de l'intelligence ou de la clairvoyance. Et donc la première solution que l'on trouvera dans l'iconographie est celle du diptyque. Vous voyez ici, donc, encore un manuscrit très célèbre, le psautier de Saint-Louis, où vous avez donc à gauche la tonsure, Dalila qui tond, qui coupe les cheveux de Samson, et puis à droite la scène de l'aveuglement. On peut aussi faire le choix du contraste, plutôt que du parallélisme. C'est la solution de ce manuscrit de la Bibliothèque Mazarine, un manuscrit de la Fleur des Histoires de Jean Mancel, où donc d'un côté, à droite, à gauche plutôt, Samson triomphe du lion, et à droite, il subit l'humiliation de la tonsure, Dalila lui coupe les cheveux. Donc on a une image en diptyque, la puissance à gauche, l'humiliation à droite, avant, après. Enfin, on peut imaginer une combinaison des deux solutions, et donc une scène en triptyque avec, c'est un manuscrit, le miroir historial de Jean de Vignier, où vous avez donc en arrière-plan le combat contre le lion et puis à l'avant-plan le diptyque, à gauche donc la tonsure et à droite l'aveuglement par les Philistins. La littérature vernaculaire fait le plus souvent le même choix que les images, ainsi chez Jean de Main, dans les Lamentations de Mathéolus de Jean Lefebvre, dans la Bible française de Massé de la Charité, c'est Dalila qui joue au barbier et prive son amant de sa chevelure. Je vous cite ici simplement deux extraits. Le premier du roman de la Rose de Jean de Main, dans le fameux discours de Génius à Nature sur le danger qu'il y a à confier un secret à sa femme. Je dis ici le texte, Dalida la malicieuse, et vous notez évidemment ici que la graphie la plus fréquente, aussi bien dans les textes latins, et notamment dans les Bibles parisiennes du XIIIe siècle, que dans les textes français, la forme habituelle n'est pas Dalila, mais Dalida. Et pour la petite histoire, la chanteuse Dalida s'appelait au départ, avait choisi au départ comme pseudonyme Dalila, et l'a ensuite changé en Dalida au bout de quelques années pour éviter le rapprochement que l'on pouvait faire avec la figure biblique. Donc Dalida, la malicieuse, par flatterie venimeuse, à Samson qui tant hierte vaillant, tant preux, tant fort, tant bataillant, si comme elle le tenouait formant, soef en son giron dormant, coupa les cheveux à ses forces, donc avec ses ciseaux, dont il perdit toutes ses forces. Et chez Jean Lefebvre, un passage proche, « Et te souviennes de Samson, que sa Dalida peu prisa, quand ses cheveux lui encisa, et les lui tondit d'une force, avec ses ciseaux, dont il perdit toutes ses forces. » On peut noter ici le possessif familier et méprisant, « sa Dalida », on retrouve la même rime force, donc les ciseaux, et puis la force, les forces, les puissances, la puissance dont il sera privé à la suite de la tonsure. Et le même vers se retrouve chez Jean Lefebvre, un signe évidemment parmi d'autres qu'il avait sous les yeux un manuscrit du roman de la Rose où qu'il connaissait très bien le texte de Jean de Main. Dans certaines images, on peut le noter, Dalila participe même à l'aveuglement du héros et retient son amant dans son giron pour permettre aux Philistins de le supplicier. L'aveuglement prolonge la tonsure, c'est ce que vous voyez par exemple sur cette image, sur cette Bible historiale de Saint Omer, où Dalila retient la tête de Samson pour que les Philistins puissent l'aveugler. Enfin, dans un De Contemptu Mundi de Roger de Caen, de la fin du XIe siècle, Dalila est même mise sur le même plan que Clytemnestre, la première à causer la perte de Samson, comme Clytemnestre, celle d'Agamemnon. Curieuse promotion, on pourrait le noter, pour une figure publique qui permet à la geste de Samson et Dalila de rivaliser avec le conflit des Atrides. La figure païenne à laquelle on pense le plus immédiatement à propos de Samson n'est évidemment pas Agamemnon, victime de Clytemnestre, mais Hercule. Le parallélisme Hercule-Samson apparaît déjà chez les pères, et notamment chez Augustin, dans la Cité de Dieu, au livre 18, et on le retrouve dans les arts figurés, comme sur le portail de Saint Trophime d'Arles. De plus, les histoires universelles insistent sur le synchronisme. Hercule et Samson auraient vécu au même moment, peu après la chute de Troie, si l'on en croit, après bien d'autres textes, l'histoire ancienne jusqu'à César. Le parallélisme repose évidemment en priorité sur la puissance physique. Samson est, dans la littérature vernaculaire du Moyen-Âge, d'abord un symbole de force. Guerrier hors du commun, chevalier hors pair, c'est le Samson fortin des romans arthuriens, de la quête du Saint Graal, de la mort Arthu, et on peut noter que Samson est un nom très répandu, notamment dans la chanson de Geste, c'est même le nom d'un des 12 pères, dès la chanson de Roland. On dira d'un héros qu'il est fort comme Samson, sage comme Salomon et beau comme Absalom. On retrouve aussi Samson en compagnie d'Hercule chez Jean de Main, et la deuxième composante du parallélisme apparaît ici, après celle de la force, l'un et l'autre ont été victimes des femmes, et pour Hercule, c'est de Déjanire dont il s'agit, le thème d'Hercule au pied d'Omphale apparaît plus tardivement, après Jean de Main, il apparaît à la fin du Moyen-Âge. L'exemplum de la force est de fait le plus souvent enrichi par l'allusion à Dalila. Samson devient alors une figure d'amant humilié par la femme, humiliation d'autant plus frappante qu'il était une sorte de super-héros. Il fait ainsi partie d'un quatuor biblique bien connu, Adam, Samson, David, Salomon, qui a donné lieu à un distique latin très largement répandu, que vous avez sous les yeux, Adam, Samsonem, si David, si Salomonem, femina decepit, quis modo tutus erit. Si Adam, Samson, si David, Salomon ont été trompés par la femme, qui donc sera à l'abri ? Cette liste est évidemment étendue à d'autres figures du paganisme, comme Aristote ou Virgile, ou à des personnages de fiction, comme Merlin. Samson est donc le plus souvent une figure exemplaire et non un personnage de récit, à la différence précisément de Merlin et d'Aristote, dont on connaît le lait, longtemps attribué à Henri d'Antely. Il est une figure exemplaire, ce qui signifie qu'on ne ressent pas le besoin d'en faire un récit circonstancié. Cette histoire est considérée comme bien connue de l'auditoire ou du lecteur, et qu'il apparaît dans une série de personnages qui ont connu le même sort. À ma connaissance, le seul texte de la littérature française du Moyen-Âge à dépasser le cadre de l'exemplum est un long passage du Renard le Contrefait, auquel on peut ajouter le Samson et Dalila du Mystère du Vieux Testament, que j'ai déjà cité, mais dont je ne reparlerai pas, car il relève du théâtre et non du récit, et que le mystère du Vieux Testament est aux marges du Moyen-Âge et de la Renaissance. Quelques mots, donc, sur Renard le Contrefait. Il s'agit d'une réécriture tardive du roman de Renard, dû à un clerc de Troyes, qui est écrit dans les années 1320-1330. Mais ce texte tentaculaire et, on peut le dire, indigeste, plus de 41 000 vers, sans compter un long passage en prose, n'a pas grand-chose à voir avec les branches du roman du XIIe siècle. Il se présente comme une gigantesque compilation de nature encyclopédique et surtout narrative. Sont ainsi insérées, compilées, recyclées toutes les formes de récits en circulation à son époque, des récits mettant en scène des acteurs animaux du roman de Renard, comme Isengrin, Tibère, évidemment le Goupil. On y retrouve par exemple profondément réécrite la scène du puits. On y retrouve une chronique universelle qui intègre à la fois l'histoire biblique, depuis la création du monde et la chute jusqu'au temps christique, l'histoire païenne, avec une tentaculaire vie d'Alexandre qui occupe presque 10 000 vers, histoire romaine évidemment, et l'histoire de l'Occident latin jusqu'au début du XIVe siècle. On y retrouve enfin des fragments de la légende dorée, des fabliaux et même des laits de Marie de France comme le laostique. Là aussi, ce n'est pas simplement compilé, les laits sont réécrits, repensés dans ce contexte nouveau. La plupart de ces récits sont pris en charge par le narrateur, non par le narrateur, mais par un personnage de la fiction, et le plus souvent, il s'agit de Renard. C'est par exemple lui qui expose à la cour de nobles la gigantesque histoire d'Alexandre. La cour de nobles n'est plus le lieu d'action ou de procès, mais un espace où l'on raconte toutes sortes d'histoires. Le verbe l'emporte sur la geste. L'histoire de Samson et Dalila ne figure pas là où on l'attendrait, soit dans l'histoire biblique entre Moïse et David, comme c'est le cas, par exemple, dans le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Elle apparaît beaucoup plus loin, dans la dernière branche et dans le cadre d'un sermon de Tibère. Tibère y met en garde ses ouailles contre les femmes. Cet emplacement signifie d'une certaine manière que, pour le clerc de Troyes, Samson et Dalila ne relèvent pas à proprement parler de l'histoire biblique et que l'on peut allègrement passer de Moïse à David, mais sont plutôt des figures d'exemplat destinées à illustrer un sermon. Figures exemplaires qui ont cependant droit à plus qu'à quelques vers, et ce n'est pas moins de 400 vers qui sont consacrés à Samson. L'auteur y propose une vie de Samson, de sa naissance à sa mort. Il ne s'en tient évidemment pas à la lettre du texte des juges. Il remodèle profondément l'hypotexte biblique sans pour autant procéder à des ajouts d'épisodes. Il n'invente rien, il réécrit. Première opération qu'il effectue, il actualise le texte biblique. Les Philistins sont ainsi assimilés aux Sarrasins. Dalida est ainsi de la gens sarrasine. Et la société des Philistins est sans surprise une société féodale. Il procède aussi à des substitutions. Il remplace ainsi, peut-être pour anoblir la perspective, il remplace la mâchoire d'âne par une mâchoire de cheval. Il procède par simplification ou condensation. Une seule des trois femmes de la Bible est conservée, Dalila, qui devient son épouse, ce qui n'est pas le cas dans le texte des juges. Il supprime des épisodes, comme celui des renards incendiaires des moissons, et ne conserve que les grandes étapes de la trajectoire du héros, naissance hors du commun annoncée par un ange, figure du guerrier hors pair qui libère Israël du joug sarrasin, et la rencontre avec Dalila, la sarrasine, je cite, « en lard d'amour venimeuse », qui est là aussi un souvenir du roman de la Rose de Jean Demain. Enfin, dernière opération, il amplifie considérablement la fin de sa vie par développement et insertion de discours directs, notamment entre Dalila et les messagers philistins, puis entre Samson et Dalila, dialogue qui, dans la Bible, est réduit à quelques versets. Comment alors est abordée la question de l'humiliation et de la vengeance finale ? Le clerc de Troyes reconfigure là aussi de manière très personnelle le matériau biblique. Vous avez sous les yeux quelques extraits de ces développements terminaux de la vie de Samson. Je lis le premier extrait. « Les deux yeux lui ont crevé, tout ainsi le défigurèrent, et puis avec eux le menèrent, et comme un fol tout attourné, s'en joue comme d'un forcené. Du pain à manger lui donnèrent, ainsi grand pièce le gardèrent, et toute Hadès pour folle le tinrent, tant que ses cheveux lui revinrent. » L'auteur, on le voit, passe quasiment sous silence l'emprisonnement. Il ne le mentionne qu'au moment où on le conduit au palais, où, je cite, « on le désprisonne ». Il ne dit mot des travaux forcés de la meule. Il évoque en deux vers la crevaison des yeux. On le voit, les formes les plus extrêmes d'humiliation sont ici atténuées, édulcorées. Et ce qui est retenu, c'est la tonsure et la dérision dont il est l'objet. Samson est ici, on le voit, configuré sur le modèle du fou d'amour des romans. Le clerc de Troyes a lourdement insisté plus haut sur la folie du héros amoureux de Dalila, Samson en est même conscient et l'avoue explicitement à sa femme. « J'ai le cœur et folle et vain, car celui bien pour folle se clame quand il dit à femme « Je t'aime ». La tonsure du héros dans la Bible permet au trouvère d'appuyer ce rapprochement. Samson est traité, pour la première fois, je crois, comme un fol tondu. On se moque de lui, on lui donne du pain, le pain au fol dont parle un proverbe et que l'on voit sur toutes les images de l'Incipiens, hein, du fol du psaume 37. Vous en avez un exemple sous les yeux, tiré d'un manuscrit du XIIIe siècle, hein, l'initiale D, historié du psaume Dixit, avec l'incipit Dixit incipiens in corde suo non est Deus. La fête au palais des Philistins, Sarrasins, est longuement décrite. On se moque du prisonnier, on le fait danser, interprétation fréquente du loup douce de la Vulgate. On la retrouve par exemple dans la Bible moralisée. Il suscite les rires de l'assistance. La folie est ici un spectacle grotesque. La fin du récit évoque la mort de toute la cour philistine, mais tait curieusement celle de Samson. Celle-ci n'est évoquée que dans la formule de conclusion qui revient sur le motif de la folie. Ainsi, je cite le texte, « Ainsi Samson, par fol amour, perdit corps, chevance, donc c'est bien, et honneur. Ainsi sont plusieurs qui, par femme, ont honte, méchief et diffame. » Le geste final de Samson constitue moins une vengeance ou un retournement de situation qu'un accomplissement de sa folie. Il reste jusqu'au bout une victime d'amour, il reste un humilié qui, par amour, a perdu son honneur. Il ne retrouve sa force que pour un ultime anéantissement des autres et de soi. Il n'est plus question de victoire, encore moins d'esprit de Dieu, comme dans la Bible. Cette question du dénouement est aussi décisive dans l'autre texte dont je voudrais parler, le Planctus Samsonis d'Abélard, texte qui, comme le précédent, accorde à Samson plus qu'une simple mention dans une série de figures exemplaires. Je reviens deux siècles en arrière, ce qui n'est peut-être pas de bonne méthode. De plus, un Planctus n'est pas un récit, et je suis donc en porte-à-faux par rapport à l'objet de ce séminaire, mais la forme lyrique, on le sait bien, n'exclut pas nécessairement la narration. On possède en fait, je l'ai déjà dit, deux plaintes latines consacrées à Samson, plainte sur le destin de Samson ou plainte de Samson lui-même sur son sort. Je parlerai d'abord du Planctus anonyme et sans doute d'origine française. Postérieur à celui d'Abélard, on le date du XIIIe siècle, ce Planctus fait le choix du génitif subjectif. C'est Samson qui se lamente sur son propre sort. Dans les deux strophes initiales, une voix sans identité précise s'adresse à Samson retenu dans sa geôle. Vous avez le texte et la traduction sous les yeux, je lis la traduction. Samson, chef admirable, à présent misérable, que fais-tu dans un coin de ce cachot sordide? C'est la ruse d'une femme qui t'a jeté dans la geôle. Les yeux arrachés, tu es aveugle. Les cheveux tondus, tu es chauve. Mais s'il repousse, tu es sauf. J'ai voulu pour épouse une étrangère, j'ai aimé une fille des Philistins. Cette voix, tout en interpellant Samson, nous dresse d'abord son triste portrait. Il est dans un coin du cachot, aveugle, tondu, misérable, et ce misérable prend ensuite longuement la parole, c'est la fin de l'extrait que je viens de citer, donc il prend la parole jusqu'à la fin du poème, soit pendant 160 vers, et nous fait le récit de sa vie, le récit de ses exploits, le combat avec la mâchoire d'âne, mais aussi et surtout de son humiliation et de sa mutilation. Ce récit est donc d'autant plus poignant qu'il est à la première personne, et on peut penser évidemment à un autre récit célèbre d'humiliation à la première personne, celui de Calogrenant, qui ouvre le Chevalier au Lion de Chrétien III, et qui est donc le récit de sa propre honte. Je cite ici le terme de honte apparaît dans le texte de Chrétien. Le récit de Samson, dans ce Planctus anonyme, est circonstancié, parfois bavard. Il intègre même des discours directs. Samson restitue ainsi le dialogue fatal avec Dalila, où il finit par lui révéler le secret de sa force, puis il nous restitue l'appel de Dalila aux Philistins. C'est le texte suivant. vous avez devant vous. Philistin, Philistin, debout, prenez lance et bouclier. Iéo, Iéo, je tiens l'ennemi à merci. Iéo, Iéo, il est rasé et je m'en ris. Ou ce qui est intéressant, est à la fois peut-être il y a cette insertion de cris, d'onomatopées, et ce qui est surtout peut-être nouveau par rapport à la tradition, me semble-t-il, est que la tonsure n'est pas que le moyen ici de briser sa force, mais c'est aussi très explicitement un signe d'humiliation qui suscite la dérision de Dalila, Calvatum derideo, il est rasé et je m'en ris. La tonsure du fou relève entre autres de cette perspective. Plus bas, Samson se peint en Christ de douleur. Je suis pris, enchaîné, en prison tourmenté, crucior in carcere, malheur à moi, on m'y fait tourner la meule. Je supporte les sarcasmes, les rires et les insultes. Quand viennent les jours de fête, ils me font les amuser. On peut évidemment noter ici le verbe crucior, la meule est en quelque sorte sa croix. Plus important, contre toute attente et toute vraisemblance, Samson continue son récit jusqu'à l'effondrement du temple et à sa mort, démentant ainsi sa situation initiale de prisonnier. Je vous cite la dernière strophe que vous voyez devant vous. « J'ai empoigné les colonnes, j'ai fait effondrer l'édifice, ma gloire est dans mon supplice fait ma gloire, ils étaient presque 3 000, ceux qu'au palais j'ai tués, pour une telle victoire que Samson soit dans la gloire. » Le plaintus se construit ainsi sur un glissement progressif qui conduit Samson de la prison à un au-delà glorieux. Au terme du récit, il n'est plus le prisonnier aveugle et tondu du début, mais il se situe sur un registre eschatologique et peut ainsi narrer sa propre fin terrestre. Le plaintus met en scène un renversement, un retournement. L'humiliation laisse place à la victoire et à la gloire. Victoria, gloria, constitue l'ultime rime du poème. Le schéma est ici hagiographique. Il en est évidemment tout autrement du poème d'Abélard. Le plaintus d'Abélard fait partie d'une collection de 6 plaintes écrites par Abélard en latin avec une notation musicale. Et ce corpus a été édité et traduit, enfin surtout traduit par Paul Zumthor, petit volume intitulé « Les Lamentations ». À la suite de ces traductions figure la correspondance, l'Historia Calamitatum, et la correspondance d'Abélard et d'Héloïse, toujours dans la traduction de Paul Zumthor. Alors, ces 6 plaintes ont été scrutées à la loupe car elles constituent, avec la collection d'hymnes écrites pour le Paraclet à la demande d'Héloïse, les seules œuvres poétiques d'Abélard. Or, Abélard affirme, dans un passage très connu de l'Historia Calamitatum, qu'il était devenu célèbre dans toute la France par ses chansons d'amour. Je cite ici la traduction de Paul Zumthor. « Si je parvenais à écrire quelques pièces de vers, elles m'étaient dictées par l'amour, non par la philosophie. Dans plusieurs provinces, vous le savez, on entend souvent, aujourd'hui encore, d'autres amants chanter mes vers. » Héloïse y fait également allusion dans une de ses lettres. On s'interroge, on s'est beaucoup interrogé sur la nature même de ces poésies, poésies en latin ou en langue vernaculaire, langue d'oc ou langue d'oïl, aucune trace en tout cas n'est parvenue jusqu'à nous. Ces poèmes bibliques latins sont donc pour nous particulièrement précieux. Ils ont en commun d'être des plaintes, plaintus, et de tirer leur matière de l'Ancien Testament. Le plaintus de Samson, qui s'inscrit dans la forme du lait, sur laquelle je ne reviens pas, sont 2-6-1 suivi de 2-4-1 puis de 9-tercets, et c'est une structure répétée une fois. Donc ce poème n'est pas une plainte de Samson sur son propre sort, comme dans le poème anonyme, mais une plainte d'un personnage ou d'un ensemble de personnages sur Samson. Il peut s'agir d'un cœur, le cœur des Hébreux ou d'Israël, ou alors de ses frères et de sa famille proche qui procèdent à l'inhumation d'après la fin, justement, du chapitre 16 des Juges. La configuration est donc bien différente de l'anonyme. Samson est en situation d'objet, non de sujet. Le récit n'est pas pour autant écarté, mais il sera à la troisième personne. Vous avez sous les yeux la structure de ce plaintus et vous le voyez, le poème alterne des séquences narratives où l'on résume la geste de Samson et des commentaires du cœur qui s'adressent tour à tour à Dieu, puis à Dalila, avant d'entamer un discours plus général sur la femme, ruine des hommes, où l'on retrouve le quatuor biblique évoqué plus haut, Adam, David, Salomon et donc Samson. Que dire alors de la mise en scène de l'humiliation de Samson dans le Planctus ? Abélard suit de très près, le texte biblique. Il reprend les différentes composantes de l'humiliation, de la tonsure à la dérision publique. Et on n'a pas ici la liberté qu'avait adopté l'auteur de Renard le Contrefait, qui avait supprimé notamment toute allusion au travail de la meule. Vous avez donc devant vous le passage qui évoque les humiliations de Samson, je lis la traduction. D'abord, Dalila l'a privé de sa chevelure sacrée, ensuite les ennemis l'ont privé de la lumière, sans force, épuisé et les yeux crevés, à la meule il est condamné, ce noble guerrier. Enfermé dans sa prison, déjà privé de la lumière de ses yeux, peinant à la meule, il est accablé de doubles ténèbres. Pour soutenir ses membres, n'ayant que l'immonde pitance des animaux, à coups d'aiguillon, il est poussé par des envieux comme une bête. La réécriture, dans un cadre lyrique, prend plusieurs formes. On peut d'abord noter les effets de répétition et d'insistance. L'aveuglement est mentionné à trois reprises, à la strophe 3, « privarunt lumine », on le prive de lumière, à la strophe 4, avec passage à la dimension concrète de la mutilation, « orbatus », aux coulisses, il est privé de ses yeux, à la strophe 5, qui réunit les deux plans, abstrait et concret, « oculorum lumine iam privatus ». Autre élément récurrent, l'image de la meule, qui apparaît dans la strophe 4, puis à nouveau dans la strophe 6, sur un registre pathétique, puisque l'on montre le héros à la peine et suant. L'autre procédé mis en œuvre est la glose. Abélard met ainsi en rapport les ténèbres de la cécité et celle du cachot, nuit intérieure et nuit de l'incarcération, geminis tenebris, ténèbres jumelles de la strophe 6. Autre glose par rapport au texte de l'Ancien Testament, l'incarcération et le travail de la meule ravalent le héros, cet athlète, au rang de l'animal. L'homme humilié et avili devient une bête, il est nourri comme les animaux, et d'oulio iumentorum à la strophe 8, ce qui est repris à la strophe 10, il est poussé par des envieux à coups d'aiguillon comme une bête, ut iumentum. Répétition et glose convergent, on le voit, vers un même effet, accentuer la passion de Samson, homme de douleur, homme humilié. La glose, on le voit, n'est pas une simple explication au sens de déploiement de la lettre du texte biblique, elle en accentue les traits. Samson est un homme des ténèbres, Abélard gomme toute ouverture vers la lumière. Le passé glorieux du héros est effacé ou réduit à un seul vers, athleta nobilis, athlète glorieux, et n'est pas rappelé à la différence du planctus anonyme. La vita, la vie de Samson chez Abélard, commence justement par une privation, commence par Dalila, la mise en scène de Dalila qui le prive de sa chevelure et puis ensuite donc de la lumière, puisqu'il est aveuglé. Surtout, la victoire finale dans la scène de la fête de Dagon est profondément transformée par rapport au texte de l'Ancien Testament. Samson retrouve ses cheveux et sa force, mais il n'est plus question d'appel à Dieu. Surtout, il ne provoque pas l'écroulement du temple pour se venger des Philistins ou manifester la puissance de Dieu, mais pour mettre fin à toutes ses douleurs. Il agit une dernière fois pour lui-même. Vous avez le texte devant vous, je lis la traduction encore une fois. « Quand ses cheveux ont repoussé, quand ses forces sont réparées, les ennemis bien avinés l'amènent pour s'en amuser, pour qu'il mette fin par la mort à la somme de ses douleurs. Son âme exaspérée longtemps passe des jeux au sérieux, de ses mains à droite et à gauche, lorsqu'il empoigne les colonnes, sa douleur réunit dans la mort les ennemis et lui-même. » On le voit, le massacre met un point final à une vie de douleur et d'humiliation. Ce n'est pas un geste héroïque qui clôt son existence et le conduirait à la gloire, mais bien une sorte d'anéantissement. Abélard refuse le scénario hagiographique et fait le choix d'un itinéraire que je qualifierais de tragique. De plus, la strophe 15 met sur le même plan Samson et ses ennemis. La mort unit les adversaires, annule le conflit, Ostium et propria miscet dolor funera. Dieu est loin, il n'apparaît que dans la strophe d'Incipit, mais sur le registre d'un Dieu juge, d'un Dieu dont les jugements constituent un abîme insondable et un mystère caché. Je cite encore la traduction, c'est un abîme insondable que tes jugements, ô Dieu, et d'autant plus redoutable qu'ils sont plus secrets. On retrouve ici le motif des ténèbres, mais appliqué au jugement de Dieu. Aux ténèbres du cachot dans lequel est jeté un Samson aveugle, répond un Dieu dont les jugements sont des abîmes sans fond. Pour Peter Drucker, qui a longuement analysé ce Plinctus dans son ouvrage « Poetic Individuality in the Middle Ages », ce texte est significatif de la place nouvelle de l'individu et du sujet, et surtout du sujet souffrant. Et je rajouterai, en confrontant ce poème au Plinctus anonyme, cette présence est d'autant plus remarquable et troublante qu'Abélard ne fait pas le choix du génitif subjectif. Ce n'est pas Samson qui se plaint, mais un autre ou des autres qui se lamentent sur son sort. Comme si cette intériorité douloureuse était mieux saisie de l'extérieur que de l'intérieur. Le choix de la première personne est par contre celui de l'historia calamitatum. On s'est depuis longtemps interrogé sur le rapport qu'il faut établir entre le Plinctus et l'historia, entre Samson et Abélard lui-même, et il faut évidemment procéder ici avec prudence. Depuis le milieu du XIXe siècle et les travaux de Rémusat, certains ont en effet affirmé un peu rapidement que Samson était une image d'Abélard et qu'Héloïse était une nouvelle Dalila. Je reprends la question à partir de l'angle de l'humiliation et en m'appuyant surtout sur l'historia calamitatum. Je ne reviens évidemment pas sur la question de l'authenticité ou non de l'historia de la correspondance, la vérité se trouvant dans un entre-deux, à mi-chemin entre l'authenticité et la facticité absolue, et pour l'historia, on a sans doute affaire à un texte authentique ou en grande partie authentique. Les convergences, en tout cas, avec l'histoire de Samson, telle que l'évoque le Plinctus, sont frappantes. L'un et l'autre texte mettent en scène une forme d'outrance et d'orgueil, des mesures physiques de l'Hercule biblique, intelligence hors du commun d'Abélard. Abélard, dans l'Historia, se présente constamment comme une sorte d'athlète de la dialectique et de la rhétorique. Il insiste sur la performance, le succès de ses enseignements, les triomphes qu'il remportait sur ses collègues plus âgés et qu'il allait supplanter. On pourrait multiplier les citations, j'en donne quelques-unes. Je commençais par fréquenter quelque temps son école, il s'agit de l'école de Guillaume de Champoux à Paris, mais elle lui devint bientôt très incommode car je m'efforçais de réfuter certaines de ses thèses, argumenter contre lui et parfois l'emportais. Plein d'orgueil, sûr de moi, je transférais bientôt mon école à Corbeil, ville toute proche de Melun, afin d'y poursuivre plus vivement ce tournoi intellectuel. Et dernier extrait, bientôt je régnais sans partage dans le domaine de la dialectique. On se situe donc dans un esprit de compétition, de tournoi, les métaphores guerrières, on le sait, sont fréquentes au début, dans les premières pages de l'Historia Calamitatum. Et Abélard revient constamment sur son orgueil, sur sa superbia. Les humiliations que va subir Abélard sont à la mesure de cet orgueil, je cite, « la miséricorde divine, en m'humiliant, sut tirer vengeance de mon orgueil, oublieux des grâces reçues. » Et on retrouverait tout au long de l'Historia les trois grandes composantes de l'humiliation de Samson. Il sera d'abord mutilé, castration d'Abélard, à mettre en face de la tonsure et de l'aveuglement de Samson. On peut noter d'ailleurs qu'il est même question d'aveuglement des hommes de main de Fulbert, dont l'un est un serviteur d'Abélard acheté par ses ennemis, comme l'a été Dalila. Je cite ici le passage très célèbre de l'Historia Calamitatum, qui évoque justement la castration. « Une nuit, l'un de mes serviteurs, acheté à prix d'or, les introduisit dans la chambre retirée où je dormais, et ils me firent subir la vengeance la plus cruelle, la plus honteuse, et que l'univers a pris avec stupéfaction. Ils m'amputèrent des parties du corps avec lesquelles j'avais commis le délit dont ils se plaignaient. Ils prirent la fuite. Deux d'entre eux purent être arrêtés. On les condamna à la perte de la vue et à la castration. L'un de ces malheureux était le serviteur dont j'ai parlé et qui, attaché à ma personne, s'était par cupidité laissé corrompre. On peut noter dans la traduction de Jean Lemain ce parallélisme entre la castration et l'émasculation. Deux qui en furent pris en perdirent les yeux et les couillons. L'aveuglement est un châtiment bien attesté à Byzance, un châtiment de ceux qui avaient conspiré contre l'empereur, dans le cas donc du crime de lèse-majesté, l'empereur incarnant la lumière, celui qui lui a porté atteinte doit être puni par la crevaison des yeux. Les souverains carolingiens ont trouvé bon de reprendre cette pratique, elle est attestée à plusieurs reprises, notamment sous Louis le Pieux. Elle devient sporadique par la suite, c'est dans la France de Saint-Louis le châtiment des faux monnayeurs, et c'est donc ici, dans ce passage de l'Historia, un redoublement de la castration, dans une sorte de loi du talion. Les castrateurs sont à leur tour castrés, si l'on en croit donc l'Historia Calamitatum. Alors on retrouve aussi dans l'Historia la deuxième composante de l'humiliation, à savoir l'emprisonnement. Abélard sera mis aux arrêts à l'abbaye de Saint-Médard à la suite de sa condamnation du concile de Soissons. Enfin, il sera humilié, conspué, moqué par ses ennemis, comme l'a été Samson par les Philistins. C'est le fameux passage d'Historia où il nous révèle qu'il a failli être tué, lapidé par la foule à Soissons et qu'il devient une sorte de spectacle offert en dérision au monde entier. Je cite le texte. « Je sentais ma honte plus encore que la mutilation. Je ne serais plus pour le monde qu'un monstrueux spectacle, en latin, omnibus monstruosum spectaculum futurus. » Pour lui, on le sait, la flétrissure de son nom est même pire que celle de son corps. De plus, comme pour Samson, du moins le Samson du Planctus, et contrairement au poème anonyme, il n'y a pas de vengeance ou de retournement possible. Abélard restera un humilié et connaîtra une sorte de mort sociale et un exil après sa castration et ses multiples condamnations. Exil en Bretagne, à Saint-Gildas, aux extrémités de la terre. Il se compare même, on le sait, à Caïn, le maudit, errant et fugitif. Du côté d'Héloïse, ou tout au moins de celle qui, à travers sa correspondance, se nomme Héloïse, on peut noter qu'elle fait elle-même allusion à Samson et Dalila dans sa seconde lettre à Abélard. Elle évoque tout un dossier biblique à charge contre les femmes, l'Ecclésiaste qui affirme que la femme est plus amère que la mort, elle évoque Ève qui fut la perte d'Adam, comme Dalila l'a été pour Samson. Héloïse est d'une certaine manière une nouvelle Dalila. Je cite la lettre, vous avez le passage devant vous. Samson, fort entre les forts, nazir de Dieu, dont un ange avait annoncé la naissance, fut vaincu par la seule Dalila, qui le trahit, le livra, le priva de la vue et le réduisit à une telle détresse qu'il préféra s'écraser lui-même avec ses ennemis sous les ruines du temple. On retrouve dans le texte latin, comme dans la traduction de Jean de Main, le terme de dolor, douleur chez Jean de Main, si important dans le Planctus. La fin de Samson est bien présentée ici comme une fin désespérée plus que comme une victoire. L'humiliation ne trouve sa fin que dans l'anéantissement commun de Samson et des Philistins. Le Planctus parlait de communauté dans la mort, hostium et propria miscet dolor funera. Ici, il anéantit ensemble ses ennemis et soi. Il accraventa ensemble ses ennemis et soi dans le texte de Jean de Main. Héloïse semble en tout cas, ou l'auteur qui a composé le texte de la lettre d'Héloïse, semble se souvenir du Planctus. Alors je conclus. Malgré toutes ces convergences, il faut être prudent dans le parallèle et se méfier d'une lecture naïvement autobiographique ou naïvement romantique, même si on le sait bien, il ne faut pas identifier le romantisme à une subjectivité transparente et que pour Vigny, il faudrait être tout aussi prudent et ne pas réduire la colère de Samson à un écho des déboires du poète avec Marie d'Orval. Le Planctus, comme l'Historia Calamitatum ou les lettres d'Héloïse, sont d'abord des textes chargés de toute une tradition littéraire, rhétorique, théologique. Tradition du Planctus, de la complainte que l'on retrouve dans l'Historia. Dans la rubrique finale de l'unique manuscrit à avoir préservé la traduction de l'Historia par Jean de Main, le mot de complainte apparaît précisément. Vous avez le texte devant vous. Or, conclut son propos Abélard à son compagnon, pour qui il a fait cette épître et ses complaintes. Plus largement, il s'agit de la tradition d'un récit qui se construit sur une dialectique de l'orgueil et de l'humiliation. Le terme d'humiliation, d'humilier, humiliare en latin, abaissier dans la traduction médiévale, est très fréquent dans l'historia. C'est sans doute moins Abélard qui s'identifie à Samson lorsqu'il écrit le Plaintus, qu'Abélard qui pense entre autres à partir de la geste de Samson et de ses réécritures médiévales sa propre existence. Avec Abélard, comme avec Samson, se noue bien un rapport étroit entre humiliation christique et humiliation amoureuse. Samson est à la fois un Christ aux outrages et un chevalier victime de la passion amoureuse, un fol d'amour dans Renard le contrefait. Le Christ connaîtra l'humiliation de la passion, Lancelot, celle de la charrette et de la folie, Samson, celle de la mutilation et la prison. Samson constitue ainsi un trait d'union entre Lancelot et le Christ, trait d'union qui n'est pas si surprenant que cela, même dans le contexte médiéval, si on se rappelle, après Michel Zinc, un sermon vernaculaire du manuscrit de l'Arsenal sur les noces de Cana, manuscrit sermon que l'on peut dater du milieu du XIIIe siècle, compare Sainte Agnès passant au Christ par le martyr à Lancelot du Lac franchissant le pont de l'épée. Je vous remercie.